France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Malgré ses 500 000 visiteurs par an et ses 80 ans d'histoire, le Palais de la Découverte, l'une des plus grandes institutions de culture scientifique en France et à l'international, est aujourd'hui menacée. Quelles en sont les raisons ? Depuis son inauguration en 1937, le palais s'attache à sortir la science des laboratoires, à la présenter au public et à susciter des vocations. Fermé depuis 2020 pour rénovation, une série d'événements jette un voile d'incertitude sur son avenir. Une mobilisation s'organise. Des tribunes et une pétition massivement signée par de grandes figures du monde scientifique pour lutter contre sa fermeture ou sa dénaturation extrême, ce qui reviendrait au même. La situation du Palais de la Découverte est-elle symptomatique de l'état global de la culture scientifique en France ? Palais de la Découverte, un musée en danger. Jean Audouze, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien directeur du Palais de la Découverte de 1998 à 2004. Et vous êtes directeur de recherche émérite CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Robin Jamais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiateur scientifique au département de mathématiques du Palais de la Découverte. Et nous sommes en ligne avec Tania Louis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiatrice scientifique et docteur en biologie. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Nous postons pour vous tous les jours sur notre compte @sciencesqfd de nombreuses ressources. Alors dans quel contexte le Palais de la Découverte a-t-il vu le jour en 1937 ? Comment a-t-il évolué depuis son inauguration ? Qu'est-il prévu pour sa réouverture et qu'est-ce qui l'a fragilisé? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence par remonter le temps. On écoute celui à qui l'on doit ce musée, Jean Perrin. En 1938, il s'adresse au personnel du palais. C'est notre archive du jour.
Je voudrais vous dire combien j'ai été ému par le dévouement constant que vous manifestez dans ce palais. Vous savez que Un de nos grands buts à laquelle nous avons l'attention fixée, c'est de développer dans le peuple qui se presse devant vous, éventuellement, des vocations qui pourront faire éclore des physiciens comme Faraday, des biologistes comme chimistes ou biologistes comme Pasteur, et par là même bouleverser les conditions de la civilisation et rendre notre vie plus incertaine, moins incertaine, plus heureuse et plus élevée, de toute façon, grâce au loisir qui résultera pour tous des possibilités élargies. Eh bien, votre tâche à cet égard est très grande, puisque c'est vous qui êtes intermédiaire direct entre la découverte dans le passé ou dans le présent et les gens qui se pressent devant vous, un peu avec la même émotion sacrée qu'ont les religieux qui pénètrent dans une église. Pour tout cela, je vous remercie.
Le discours de Jean Perrin diffusé sur la RDF en 1938, c'est lui qui a permis la naissance de ce musée unique au monde, Jean Audouze.
Ce palais. Très important,
le mot palais. Vous êtes très attaché au mot palais.
Oui, très important. C'est fondamental. C'est ce qui en fait d'ailleurs la valeur. Et puis il a dit quelque chose de très très important. Enfin, d'abord, il faut lui rendre hommage. C'est un immense savant qui a été donc aux affaires. Et on lui doit le CNRS, on lui doit l'Observatoire de Haute-Provence, l'Institut d'astrophysique. Donc j'ai eu la chance de travailler dans deux de ces réalisations, et puis évidemment le palais. Le palais, c'est pour moi, enfin, quand j'y étais, il n'y avait pas deux jours où il n'y avait pas quelqu'un qui venait me dire « Ah, monsieur, je dois vous dire que c'est là où j'ai trouvé ma vocation scientifique. » Et pour moi, c'est essentiel. Donc, si jamais le palais disparaissait, ce serait une énorme catastrophe.
En effet, on entendait dans cette archive, Robin Jamais, dans les mots de Jean Perrin, également prix Nobel, l'importance de ce palais pour faire éclore des vocations scientifiques.
Oui, c'est un endroit où c'est un peu la maison des gens qui s'intéressent à la science. Alors, c'est pour tout le monde, c'est aussi pour les gens qui ne s'intéressent pas à la science, justement. C'est important de rappeler que dans notre public, on avait, là c'est un peu plus compliqué en ce moment de dire ça, mais je crois que c'est à peu près les mêmes proportions, on avait un tiers de public scolaire. Disons que le grand public, c'est des gens qui font le choix d'aller au musée, et ça on sait que c'est pas n'importe qui, quel que soit le musée. Mais le public scolaire, c'est un public à qui on n'a rien demandé, et on a tout type de public scolaire qui vient de Paris, d'Île-de-France et d'ailleurs. On a vraiment des gens, et ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est important que ça soit placé là où c'est. C'est-à-dire que, bon, au-delà du symbole, de dire l'État, la ville de Paris sont d'accord pour donner cette place, cette importance à la culture scientifique, ça fait partie de la culture au même titre que le Louvre. C'était aussi, d'un point de vue pratique, des classes qui viennent de loin, que ce soit de banlieue ou d'un autre endroit de France, organisent un voyage à Paris et il y a les bateaux-mouches le matin, le palais des découvertes l'après-midi.
Par rapport aux vocations, pour compléter ce que vous venez de dire, il y a un rapport du Sénat qui indique que 56% des scientifiques parisiens de plus de 30 ans, 41% des scientifiques parisiens de moins de 30 ans indiquent que le palais de la découverte a joué un rôle dans leur vocation scientifique. Je voulais écouter également votre écoute à vous, votre regard, Tania.
Rappelez-vous, Pierre-Gilles de Gênes, le grand prix Nobel de... Et il ne passait son temps à le dire.
Tania Louis, je me tourne vers vous parce que vous aussi, j'aimerais entendre votre réaction à l'écoute des mots de Jean Perrin.
Bah, y a deux termes qui m'ont frappée sur la fin de son discours. Il y a l'idée de l'émotion, et je pense que c'est une chose qu'il ne faut vraiment pas oublier. Le palais et la médiation face publique de façon générale, c'est quelque chose qui suscite des émotions, et le palais réussit la prouesse d'émerveiller et de faire rêver avec des sciences fondamentales, ce qui est quand même un sacré défi. Et il faisait la comparaison avec rentrer dans une église. Et là aussi, ça rejoint pour moi une des missions de la médiation scientifique qui est de désacraliser les sciences et de les rendre accessibles à tous et toutes, y compris les personnes qui ne sont pas intéressées a priori, comme le disait Robin.
Émerveiller, c'est l'une des missions du palais dès sa construction. Jean Audouze, on peut peut-être rappeler dans quel contexte historique, à quel moment le palais de la découverte a-t-il vu le jour en 1937?
Donc c'était à l'occasion d'une exposition universelle. Jean Perrin était sous-secrétaire d'État à la recherche, donc et il était sous la, comment dire, son ministère de, c'était Jean Zay, c'était vraiment des très très grands serviteurs de l'État. Hein, Jean Perrin a eu cette idée absolument, il le dit bien d'ailleurs, de trouver un lieu à la fois ludique, ouvert à tous, qui transmet des émotions et véritablement qui sert à former, à encourager les jeunes. Hein, il ne faut pas oublier qu'en ce moment, vous regardez les classements PISA, la jeunesse française a besoin d'être encouragée à aller vers les sciences et vers les technologies. Moi, ce qui est important, le fait que le palais de la découverte soit à l'intérieur du Grand Palais, pour moi, c'est un symbole très fort. Il n'y a pas de hiatus entre... Les gens de la culture veulent séparer la culture scientifique du reste de la culture. Mais non. La culture scientifique fait partie inhérente de la culture. Et au même titre que la musique, que la... Au centre de Paris, on est ce joyau. Je trouve que c'est une grande chance pour notre pays, pour Paris, et véritablement, on va tout faire pour essayer d'éviter la catastrophe.
Le palais de la découverte qui, en effet, ouvre au sein du Grand Palais, Robin Jamais. À ce moment-là, le Grand Palais, cette cohabitation Grand Palais, Palais de la Découverte, le Palais de la Découverte est censé être éphémère, mais c'est un carton.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça ouvre en 1937, juste pour l'exposition universelle. Donc le Grand Palais avait été construit lui-même pour une exposition universelle en 1900. Et là, il est investi de cette exposition en principe temporaire, juste le temps de l'exposition universelle. Et il y a, de mémoire, 2 millions de visiteurs. Enfin, c'est un carton absolu. On se rend compte que ça intéresse énormément de gens. Et donc, je pense que Jean Perrin et les autres y avaient déjà pensé avant, mais c'est pérennisé. Faut insister sur l'aspect extrêmement novateur de la présentation. Ça paraît très naturel aujourd'hui, la présentation au public de concepts scientifiques par des gens, mais c'est quelque chose avec des démonstrations en direct, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, et d'ailleurs qui a été repris. Il y a eu des émotions, il y a eu une tribune dans le monde par des gens à l'international, parce que le Palais des Découvertes a été une référence à l'international. Il y a des gens qui ont dit « Ah, on peut présenter la science !» science. À l'époque, c'est vraiment quelque chose au public, quelque chose de complètement nouveau.
À quoi ça ressemblait à l'époque?
Bah, je sais pas exactement, il y avait des cabinets de curiosité, il y avait des choses comme ça, j'imagine, mais le fait de faire des expériences devant les gens, tout le monde insiste à l'époque pour parler de à quel point c'est innovateur.
Faire des expériences devant les gens.
Le Grand Palais était lui-même éphémère, hein, puisqu'en 1901, oui. Il devait durer un an.
Lui aussi, oui.
Alors, lorsque les gens de la culture disent « Mais nous sommes là pour l'éternité », mais les scientifiques, nous aussi, on est là pour l'éternité. Et on est ensemble. On n'est pas les uns contre les autres, on doit être ensemble.
Ensemble autour, vous venez de dire un mot clé, ensemble autour d'expérience, et ça aussi c'est une des grandes, un des grands coups de génie aussi de Jean Perrin dans cette culture muséographique et scientifique, c'est de montrer cette science en train de se faire, Jean Audouze.
Ben oui, c'est ça. C'est de, bon, et puis, il y a ce côté ludique, c'est-à-dire, enfin moi je me rappelle, enfin, oui, le nombre de fois où j'ai vu ces démonstrations qui sont classiques, mais qui sont importantes, qui permettent, lorsqu'on voit les jeunes filles, les cheveux des jeunes filles montés par l'électrostatique, ou lorsqu'on voit les expériences sur la loterie de l'hérédité, alors en mathématiques, puisque c'est votre domaine, on a un joyau qui est la salle Pi. Hein, c'est à la fois un bel objet artistique, et c'est un objet qui permet de comprendre, enfin, ou tout au moins de montrer, de familiariser les gens avec les mathématiques. Donc il y a tout ça, l'émerveillement, et puis prendre, je veux dire, moi j'ai observé, il y a une espèce de connivence entre le médiateur et son public. Le médiateur, il ne vient pas là pour montrer qu'il est hyper sophistiqué et tout ça, non. Il présente les choses et il dialogue avec le public. Et ça, c'est inimitable, je veux dire. Parce que l'oral, malgré tout, vous voyez, il y a de nouvelles technologies, mais les technologies basiques demeurent très fortes.
Alors, comment, Robin Jamais, en effet, ces médiateurs scientifiques qui s'articulent autour de cette doctrine, montrer la science en train de se faire, qui est une expression chère à Jean Perrin, ça peut aussi s'interpréter de deux façons.
Oui, il y a deux interprétations, on en a parlé nombre de fois dans les couloirs avec les collègues. La science en train de se faire, ça peut vouloir dire la science d'aujourd'hui, et puis ça peut vouloir dire faire la science devant les gens. On peut interpréter ça des deux façons. Alors, la science d'aujourd'hui, elle n'est pas toujours facile à montrer. D'abord, il y a des choses qui deviennent extrêmement complexes, et même pour nous, assimiler des concepts contemporains, c'est pas toujours complètement évident. Et puis, de toute façon, on peut pas transmettre la science contemporaine si on s'adresse à des gens qui n'ont pas un certain nombre de bases, de classiques, de fondamentaux. Donc c'est vrai qu'il y a les deux et qu'on essaye, évidemment, qu'on est toujours en contact avec des chercheurs, avec la recherche, c'est quelque chose qui fait partie de notre formation, de notre quotidien, de se mettre toujours au goût du jour. Mais c'est vrai que ce qu'on présente, c'est aussi beaucoup des fondamentaux anciens, parce que c'est toujours les mêmes, il n'y a pas de raison de changer. Et c'est surtout faire de la science devant les gens qui finalement est la partie la plus importante, je pense, au quotidien pour nous.
Alors comment le palais a-t-il évolué depuis sa mise en place et qu'est-ce qui l'a fragilisé? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Direct sur France Culture avec Jean Audouze, Robin Jamais et Tania Louis, nous parlons du Palais de la Découverte, ce musée emblématique des sciences qui craint pour sa survie. On vient de voir ce que c'était l'esprit Jean Perrin, l'instigateur de ce musée, celui à qui l'on doit le Palais, le CNRS, l'Observatoire de Haute-Provence et l'IAP, comment il a pensé le rôle social de la culture et des sciences comme vecteur d'émancipation et de paix.
Pour moi, le souvenir le plus cher que je puisse évoquer...
C'est André Léveillé qui parle maintenant.
...de l'organisation du Palais de la Découverte. Je connaissais Jean Perrin depuis longtemps, mais l'exposition que l'on organisait me rapprocha de lui. En effet, en 1934, nous avions conçu l'idée d'une maison de la science. Un comité important avait été constitué sous la présidence d'Henri Jouvenel, ce grand intellectuel qui s'était passionné pour une telle idée. Il avait réuni dans son charmant hôtel un certain nombre de grands savants, parmi lesquels figuraient naturellement Jean Perrin, Paul Langevin, Collery, Borel et tant d'autres. Nous exposions cette idée avec plus ou moins de clarté, plus ou moins de difficulté, et Jean Perrin nous écoutait, son beau regard perdu au loin. Et tout à coup, il prit la parole. en nous disant « Oui, tout cela est bien intéressant, mais ce n'est pas ce que je désire. Ce que je souhaite, c'est un établissement permanent qui permette de montrer à tous que rien n'a été créé dans le passé et que rien ne peut être espéré dans l'avenir pour le progrès humain sans la recherche scientifique et la découverte. Et je veux une maison où on répétera les expériences capitales, où on fera voir ce qu'est vraiment cette science conquérante. Ce que je veux, dit-il en hésitant un instant, c'est un palais de la découverte.
Ce que je veux, c'est un palais de la découverte. André Léveillé, directeur du palais de la découverte, et un extrait de l'émission Tribune de Paris, diffusée sur la RDF en 1948. Jean Audouze, comment le palais a-t-il donc évolué après son inauguration en 1937?
Oui, si vous voulez, ben, ça a été dit. On a d'abord compartimenté, évidemment, il y a eu donc un département de maths, un département de physique, un département de chimie, géologie, biologie, etc. Puis deuxièmement, il y a eu, évidemment, on a conçu, au fur et à mesure, il y a eu des expériences qui sont arrivées bien plus tard que d'autres. Par exemple, tout ce qui concerne la biologie, il y a une très belle démonstration qui s'appelle la loterie de l'hérédité, qui est assez postérieure à d'autres, mais qui est... Donc, tout au cours de son histoire, le palais a inventé des nouvelles expériences. L'école des rats est assez postérieure également. C'est pas venu tout de suite, si vous voulez. Et alors ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, on a aussi investi le domaine des expositions temporaires. Et alors, pourquoi je le dis? Parce qu'il y a eu de belles expositions temporaires. Bon, on se fondait sur le goût des jeunes. Par exemple, les dinosaures, bon, ben, ça a été des immenses succès. Mais ça permettait aussi de faire connaître le palais grâce à ces expériences, ces expositions temporaires. Donc voilà, si vous voulez, le palais a travaillé. Il a, pendant... de nombreuses années. Et moi, quand je regarde mes prédécesseurs et mes successeurs, il y a eu toujours une permanence, honnêtement. Je veux dire, on a tous été investis à peu près de la même volonté de nous mettre au service du public. Et pour moi, la récompense suprême, c'était lorsque quelqu'un venait me dire: Monsieur, c'est ici que j'ai appris, que j'ai eu envie de devenir ingénieur ou chercheur.
Vous voulez dire, pour compléter, Robin Jamais, comme finalement cet esprit Jean Perrin, c'est un esprit qui a su se renouveler au cours du temps et des décennies.
Oui, en fait, il y a vraiment une tradition. Quand on parlait d'oral tout à l'heure, c'est extrêmement important, l'oral au palais. Les exposés, c'est quelque chose qui se fait à l'oral, les ateliers aussi, tous les échanges avec le public. On n'a pas, ou peu en tout cas, de cahier de médiation comme ça peut se faire ailleurs. C'est quelque chose, quand on arrive au palais de la découverte, en tant que médiateur, la première chose qu'on vous dit, c'est va voir un maximum d'exposés. Va voir tous les exposés, de ta discipline, des autres disciplines. C'est comme ça qu'on apprend ce que c'est. Il y a vraiment un fil. Alors, ça ne dit pas que, évidemment, on change. Évidemment que chacun fait avec ce qu'il est, chacun fait avec son âge, chacun fait avec sa génération. Donc les exposés passent leur temps à évoluer. Mais il y a une espèce de transmission comme ça, d'un esprit. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, amusant, touchant, je trouve, de voir que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, parce que je suis quand même nettement moins jeune maintenant, mais la première chose qu'ils font, ils s'y réapproprient tout de suite. Ils connaissent l'histoire du palais, ils connaissent les fondateurs. Et puis, ils savent aussi, bien sûr, tout ce qui a changé depuis, et ils sont force de proposition. Mais il y a tout ce fil qui est là. Les choses importantes, je voulais juste revenir sur une chose. Donc il y a l'oral qui est vraiment très important. Et le truc important du palais, c'est qu'il y a deux choses essentielles. Il y a l'accroche. Il faut réussir à accrocher le public, les expositions temporaires. Le lien avec les arts fait partie des accroches possibles. Il y a eu une exposition, puisque je suis en maths, je peux en parler. J'y étais pas là, mais une exposition, par exemple, maths et danse. Oui, ça, c'est quand même clairement un moyen pour faire venir un public inhabituel. Et une fois qu'on a accroché les gens, c'est aussi un lieu de ressources pour les gens qui veulent aller plus loin. C'est vraiment les deux, cet endroit.
Je peux dire qu'il y a... Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine de planétariums, mais le Palais de la Découverte a été le premier à avoir un planétarium. Et ce planétarium, il a eu une importance historique considérable.
Installé en 1952, en effet.
Oui, voilà, c'est ça. Bien avant tous les autres. Et enfin, il a servi de modèle, d'ailleurs, à tous les autres. Et honnêtement, Là, il y a eu de la part, enfin, c'était les, mes collègues, mes plus jeunes collègues astronomes, qui, Denis Savoie et quelques autres, qui ont véritablement on ont fait un bijou. Et un bijou qui a eu véritablement, enfin, tout le monde parle du, a parlé ou parlera, a parlé du planétarium, du palais de la découverte.
Voilà, on vient d'évoquer son importance historique, son importance sociale et culturelle. Aujourd'hui, le palais est fermé pour rénovation depuis 2020. Aujourd'hui, on ne sait pas bien, on est dans le flou par rapport à son avenir. Avant de regarder plus précisément quel est le problème, peut-être qu'on peut aussi revenir sur cette historique, Robin Jamais, hein, sur le fait par exemple que le palais a été déjà fragilisé depuis un certain temps. C'est une institution qui n'a cessé de perdre en surface.
Voilà, alors on peut résumer en quelques dates. Il y a la première date qui est 1938, ça paraît très court comme durée, mais n'empêche que bah, comme en 1937 c'était une exposition temporaire, l'équipe a réussi à en faire une exposition permanente, c'était très bien, mais en perdant énormément de surface. Bon, on peut effectivement comprendre qu'entre un événement et un musée permanent, on perd des surfaces, mais c'était vraiment une perte très importante. Et puis ensuite, il y a eu une catastrophe qui est arrivée, alors j'en suis...
En 38, on est à 20 000 m² de surface oui. D'exposition.
Oui, non, ça reste honorable, hein, je veux dire. Mais alors, cela dit, il y a un article très amusant, je ne sais pas, très triste en même temps, de 1961, qui est très intéressant, où il y a le directeur du Palais de la Découverte de l'époque qui dit « Si on veut que le Palais de la Découverte remplisse ses missions, il faut lui donner l'intégralité des surfaces du Grand Palais. » Et je suis relativement d'accord avec lui. Bref, ce qui s'est passé de catastrophique, et j'en suis absolument désolé pour les gens qui travaillent là-bas, mais c'est l'arrivée du ministère de la Culture. L'arrivée du ministère de la Culture, c'est des gens qui ont manifestement pas compris effectivement que la science faisait partie de la culture, et à partir de là, il y a eu énormément d'attaques. Peu de temps après son arrivée, par exemple en 1960, il y a eu une perte sèche de surface très importante. Il y avait deux entrées au palais de la découverte tellement il était grand. Et il y a eu une perte sèche d'une très grande surface avec une deuxième entrée. Il n'y avait plus qu'une seule entrée à partir de ce moment-là. Il y a eu aussi des histoires de bombardements qui ont fait pendant la guerre, qu'il y a eu des espaces perdus. Et puis, si on poursuit, il y a eu effectivement des pertes d'espace progressives. Il y a eu un manque de moyens du palais de la découverte qui faisait qu'il avait du mal à se rénover, à se renouveler. Et donc, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Donc, écoutez, vous ne faites rien de cette salle, on va vous la prendre. Donc, il y a eu l'étape très importante en 2009 du Salon d'honneur, qui était vraiment un espace très noble, très, très grand, magnifique, 15 mètres sous plafond. Et il y a eu un échange, soi-disant, de fait, c'est comme ça que c'était présenté à l'époque, contre la même surface, mais de bureaux, avec le Grand Palais. Donc, évidemment, nous, des bureaux, c'était pas la même chose qu'une grande salle d'exposition dans laquelle on avait plein de salles de médiation, plein de choses à montrer. Et puis, il y a eu encore un peu plus tard une autre salle, l'ancienne loterie d'hérédité, qui a été perdue, soi-disant prêtée, soi-disant empruntée par le Grand Palais, mais qui n'a jamais été rendue. Donc, oui, il y a vraiment une perte de surface progressive au fil des années, au profit systématiquement du Grand Palais.
Ça, c'est quelque chose auquel vous avez été confronté.
Moi, j'ai été confronté. La première, ou 98-99, c'était Madame Catherine Trottmann, qui était ministre de la Culture. Elle m'a délégué un des membres de son cabinet, qui s'appelait Pierre Encrevé, et qui m'a dit, écoute, voilà, on va te proposer une autre solution. Mais j'ai dit, alors laquelle? Alors, n'importe. Il voulait y mettre un musée de la photographie. Mais vraiment, c'était, pardonnez-moi, mais d'un côté, on a eu un prix Nobel aux affaires avant la Deuxième Guerre mondiale. Et je suis atterré par, pardonnez-moi, mais c'est pas seulement le palais si vous voulez, moi, c'est le manque d'intelligence. Pardonnez-moi, c'est le manque véritablement d'intelligence. Pourquoi détruire quelque chose, une institution qui marche bien, qui est utile, qui est particulièrement utile actuellement? Pour les raisons que je vous l'ai dites, hein, la place de la science dans l'éducation, etc. Et on s'ingénie, et des gens tout à fait remarquables, mais je me demande à quoi ils pensent, vraiment. Ça sert à... Et puis d'autre part, l'argument qui est de dire « mettons tout à la Cité des Sciences », c'est complètement ridicule. Je veux dire, la peinture se trouve à la fois au Louvre, à Orsay, à l'Orangerie, etc. Moi, je trouve ça très bien. Pourquoi empêcher Paris d'avoir quatre musées quatre institutions scientifiques.
Parce que pour éclairer ce que vous dites, à l'heure actuelle, on ne sait pas si le Palais de la Découverte va ouvrir au sein du Grand Palais. C'est ça le gros souci numéro un, Romain Jamais ?
Oui, en fait, on ne le sait pas. Alors, c'est seulement depuis fin mars qu'on commence à avoir des doutes, puisque donc, depuis la fermeture, il n'y avait aucun doute. Les plans ont été présentés. Alors, il faut savoir que dans les plans, le Palais de la Découverte perdait à nouveau énormément de surface. C'est-à-dire que si les choses se passent comme prévu, il faut savoir que le Palais de la Découverte rentre au chausse-pied. Que déjà, c'est extrêmement compliqué de le faire perdurer. Mais bon, on avait déjà fait une pétition à l'époque, on avait perdu. Donc, on s'était adapté à cette situation et tous les plans étaient prêts. C'est-à-dire que ça fait 6 ans qu'on y est, nous. Ça fait 3 ans que le CNRS y est. Ça fait 3 ans qu'on a embauché une maîtrise d'œuvre. Il y a des millions qui ont été dépensés. Pour vous dire à quel point c'est prêt, la couleur des murs a été choisie, les textes sont écrits, les étagères les tailles des étagères sont fixées, tout est prêt. Et là, la seule chose qui manque maintenant, c'est de lancer les travaux. Et à ce moment-là, sans aucune explication, sans aucune présentation d'un projet alternatif, on a appris que les commandes étaient bloquées, qu'on n'allait pas pouvoir embaucher les entreprises pour relancer les travaux. Et on a entendu des propos relativement surprenants et inquiétants, de la part notamment du président du Grand Palais et de la ministre de la Culture.
Oui. Et moi, ce qui me choque profondément, j'en parle d'autant facilement que mon collègue Bruno Macquart n'est pas un scientifique, mais il fait partie. Donc je trouve absolument
Bruno
scandaleux.
Bruno Macquart, le président d'Univers Sciences.
Oui, le président d'Univers Sciences. On l'a licencié, sans raison, ce que je trouve profondément scandaleux. On est vraiment... Enfin, je suis... pardonnez-moi, mais je suis vraiment furieux de tout ça.
Robert Jamais, en effet, l'inauguration, l'ouverture éphémère aurait dû avoir lieu la semaine dernière.
Oui, alors c'est ça, c'était compliqué, c'est-à-dire que il va falloir essayer d'être clair, je vais essayer de faire mon métier. Il y avait deux ouvertures de prévues, c'est-à-dire que en principe, on récupérait d'une certaine manière les clés. C'est une expression, hein, mais on récupérait l'usage du bâtiment dès que les travaux du bâtiment lui-même étaient terminés. Le Palais de la Découverte ayant besoin de structures en dur, il y avait besoin d'encore plus d'un an de travaux pour nous installer vraiment dedans et pouvoir ouvrir le Palais de la Découverte. L'idée était donc de dire, dès qu'on a les clés, on occupe une salle d'exposition temporaire avec une exposition temporaire, on profite d'avoir les espaces vides pour faire un genre de festival avec des stands, etc. Et puis on ferme tout ce qui doit être fermé pour faire les travaux d'aménagement, et on ouvre définitivement le Palais des Découvertes terminé à la fin de l'année 2026. J'étais moi-même dans l'organisation du festival de la fête, juste avant le... Enfin, donc en stand, hein, sous format camping, quoi, un truc comme ça, mais qui était vraiment avec des artistes qui étaient déjà... qui avaient déjà réservé leur venue, avec des scientifiques qui avaient tous très envie d'être là pour cet événement. Et brutalement, ça a été annulé sous prétexte de 2 mois de retard dans les travaux, mais au même moment, ça c'est vraiment un épiphénomène, hein, cette préouverture, c'est un épiphénomène. Le vrai problème, c'est qu'au même moment, on a vu que tous les engagements pour la véritable réouverture étaient bloqués, sans explication, sans même qu'on nous le dise, c'est en discutant entre collègues qu'on s'en est rendu compte, et que donc tout était bloqué. Sachant que, évidemment, les travaux devaient commencer en octobre, là, si les contrats ne sont pas signés maintenant, ben, ça y est, on est en train d'accumuler du retard. Chaque jour qui passe, c'est encore de l'argent dépensé. C'est encore du retard pour la véritable réouverture. Voilà, il y a plusieurs millions qui ont déjà été dépensés. Des mécènes qui avaient promis plusieurs millions d'euros, on en est à 6 millions, 8 millions même en ajoutant nature et compétences. Tout cela risque fort de finir à la poubelle si le projet est ne serait-ce que modifié. Parce que modifier, ça veut dire tout retravailler.
Alors comment sa muséographie a-t-elle été justement repensée pour sa réouverture en 2026 ? Restez avec nous.
Ignored us, the system is a blur.
Ladies Will Discovery en direct sur France Culture, car nous parlons du Palais de la Découverte en compagnie de nos trois invités du jour. Jean Audouze, directeur, ancien directeur du Palais de la Découverte de 1998 à 2004. Robin Jamet, médiateur scientifique au département de mathématiques du Palais de la Découverte. Et Tania Louis, médiatrice scientifique et docteur en biologie. On a évoqué les difficultés du Palais de la Découverte. Une mobilisation s'organise pour le sauver avec une pétition signée par plus de 78 000 personnes, avec de grands noms scientifiques, le climatologue Jean Jouzel, le directeur scientifique de l'IHM État Yann Lequin, le mathématicien Cédric Villani, et puis aussi des tribunes, l'Académie des sciences qui publie un communiqué de presse pour le défendre. Parmi les difficultés de cette histoire du Grand Palais, Robin Jamet, on n'a pas encore évoqué le mariage. Le mariage de cette fusion du Palais de la Découverte avec la Cité des sciences et oui. De l'industrie Univers Sciences.
Oui, alors, moi, depuis que je travaille au Palais de la Découverte, j'ai au moins deux métiers. Mon métier de médiateur en mathématiques et mon métier de défenseur du Palais de la Découverte. On passe notre temps à rédiger des pétitions, à chercher des soutiens. Et donc ça a été la première grosse lutte quand je suis arrivé. Bon, il y en avait déjà une avant, mais celle dans laquelle je me suis vraiment bien impliqué, la première. Il a été question donc de fusionner, alors d'abord c'était un rapprochement, puis fusionner, le Palais de la Découverte avec la Cité des Sciences et de l'Industrie. Pour beaucoup de personnes, c'était pas choquant, parce qu'il y a deux musées de sciences, et donc on les fait travailler ensemble, c'est formidable, ça va être plus pratique, plus facile de travailler ensemble, on va faire de la synergie, comme on dit, etc. Faut avoir bien conscience que ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, le Palais de la Découverte, c'était 200 personnes, la Cité, c'était plus de 1000, donc ce qui s'est passé, c'est que le gros a mangé le petit, ce qui s'est passé, c'est qu'on a changé de statut, ça a l'air de rien, mais en fait ça a des conséquences très importantes sur le fonctionnement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a plus de direction du Palais de la Découverte. Ça fait 15 ans que le Palais de la Découverte existe sans personne à sa tête. C'est quelqu'un qui est à la tête d'Univers Sciences, une grosse entité qui regroupe la Cité des Sciences, qui elle-même regroupe la bibliothèque, la Cité des Enfants, Explora, etc., etc., et le Palais de la Découverte à l'autre bout de Paris. Donc en gros, on se retrouve sans représentation, on se retrouve avec des gens qui commencent à travailler pour nous alors qu'ils sont à l'autre bout de Paris et qu'on ne les connaît pas. Ça complique énormément les choses. Et a priori, c'est quand même beaucoup plus facile, je pense, de dire qu'on ferme le Palais des Découvertes quand on dit que c'est Univers Sciences qui se regroupe sur un seul site. Si c'était deux musées distincts, avec deux personnalités à la tête de chacun, ça serait quand même beaucoup plus difficile de dire, comme si on disait « Beaubourg ferme pour travaux, oh bah ça ne rouvre pas, ça rouvrira dans le Louvre ». Je veux dire, c'est du même ordre, c'est de la même absurdité, mais vu que c'est pas les mêmes musées, ça s'entend plus. Voilà. Et puis bon, ça a créé vraiment des grosses problématiques, parce qu'on n'avait pas du tout la même culture, pas la même façon de travailler. Je n'ai rien contre mes collègues de la Cité des Sciences et de l'Industrie, je m'empresse de le dire. Il y a des gens avec qui on s'entend très bien. Mais c'est vrai qu'on a deux cultures d'origine extrêmement différentes, deux façons de travailler extrêmement différentes, et que ça a été un choc très très important, et que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent encore aujourd'hui comme un problème.
Puisque plusieurs fois, il a été question de trouver un nouvel écrin pour le Palais de la Découverte, Jean Audouze. Et d'ailleurs, à votre époque, quand vous étiez directeur du Palais, c'était déjà le cas. C'est déjà une question, c'est un peu un serpent de mer.
À un moment, on nous a proposé d'aller au Trocadéro, à la place du Musée de l'Homme, enfin, ou tout au moins d'en renforcer. Alors, d'un point de vue de mètres carrés, de possibilités, c'était pas... c'est en centralité, donc ça, c'est... Voilà. Et deux, en mètre carré, c'était intéressant. Donc, mais on n'a pas ça, cette idée a pas. Oui, ça a duré 3 mois et puis elle est tombée dans le ça. Enfin, permettez-moi, c'était pas a priori la juxtaposition. Pour moi, c'était pas. On en avait discuté avec le prédécesseur de Bruno, un des prédécesseurs de Bruno Macquart. Moi, je voyais intéressant, si vous voulez, d'avoir deux établissements qui... Mais il aurait fallu, effectivement, comme vous l'avez souligné, il manquait un... Moi, je pensais qu'il y aurait un président, puis deux directeurs, c'est-à-dire un directeur cité, un directeur palais, qui se concerterait, parce que une concertation, c'est pas nécessairement idiot. Je prends un exemple. Il y a une très belle exposition à la Cité des Sciences qui est fait le récit de l'univers, qui aurait dû, enfin moi si j'avais été aux manettes, elle n'était pas faite pour la Cité des Sciences, c'est une expo Palais de la Découverte. Enfin, c'est comme ça. Et de temps en temps, on s'est laissé, c'est arrivé que des expos palais auraient été peut-être mieux, enfin, dans un meilleur écrin, parce qu'il y a vraiment deux esprits différents. Il y a le Palais de la Découverte, c'est pédagogique, c'est le public, c'est pour tout le monde. L'Institut des sciences, il y a une relation entre la technique, c'est-à-dire qu'on prend la science comme un élément de société, si vous voulez. Et je pensais que c'était intéressant que ces deux entités travaillent ensemble. Malheureusement, vous avez raison. Dans mon esprit, il fallait un directeur du Palais de la Découverte.
En effet, le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences sont quand même deux entités très différentes, avec un ADN différent. Les réunir, ce serait comme confondre le Louvre et le Centre Pompidou. Alors après 5 ans de gestation, le projet de rénovation est en voie donc de concrétisation, prêt à être déployé. On continue avec le reportage du jour. À quoi ressemblera la prochaine version du Palais de la Découverte et avec quelles nouveautés en termes de médiation scientifique pour le grand public? Pour le savoir, nous vous proposons de découvrir les plans inédits du réaménagement et c'est avec vous Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha, oui car on peut s'attendre là à une véritable transformation structurelle du Palais de la Découverte selon une démarche qui privilégie l'exploration, l'interaction des disciplines et surtout la mise en pratique des savoirs. Jean-Michel Courty, physicien au laboratoire Kessel-Bruxelles de Sorbonne Université, est depuis 4 ans un des 9 commissaires scientifiques et avec Universcience, l'intention a été de redéfinir l'expérience des visiteurs. À partir des nouveaux plans, il nous propose une visite éclairée avec des escales sur des innovations et première mondiale en termes de dispositifs et de procédés muséographiques pour dévoiler in situ la recherche en train de se faire.
Donc nous entrons par la rotonde. On va prendre ses billets à la billetterie commune et puis on va commencer à aller sur la droite et on arrive à une première salle qui est la salle des têtes chercheuses. Alors, dans cette salle des têtes chercheuses, en fait, il y a un chercheur qui va être là avec ses expériences pour pouvoir partager en contact direct avec le public ses travaux de recherche.
C'est vrai, travaux de recherche, c'est pas des ateliers de médiation.
Alors là, c'est vraiment les vrais travaux de recherche et on apporte le matériel, les expériences qu'on peut faire pour pouvoir échanger avec la physique sur la recherche d'aujourd'hui. Parce que c'était ça le projet de Jean Perrin, c'est de montrer la science en train de se faire. Mais sauf que tous les chercheurs peuvent pas venir, on peut pas ramener tous les laboratoires. Dans la salle qui est en face, qui est la salle grand format, une salle immersive avec des écrans géants sur les murs, dans lequel un médiateur va pouvoir accompagner le visiteur dans les lieux de recherche qui d'habitude sont inaccessibles. Donc dans les premiers, on va voir l'Arctique, avec la base en Arctique, qu'est-ce qui se passe, que font les chercheurs là-bas, qu'est-ce qu'on étudie. Et puis le synchrotron Soleil, un accélérateur de particules qui est là pour fabriquer des rayons X permettant d'aller sonder la matière. Et là encore, à la rencontre de la recherche sur tous les endroits qu'on peut pas. Et puis ensuite, on pourra aller dans la vallée des Rois pour faire de l'archéologie. Enfin, voilà, tous les lieux sont possibles. Donc une fois qu'on est sorti là vraiment de cette recherche de pointe, on peut revenir sur des îlots qui vont rendre un petit peu accessibles tous les concepts de base, etc. Et puis le cœur du palais, c'est la médiation humaine, c'est-à-dire les exposés par les médiateurs. Donc là, juste après ces salles-là, là on a la salle d'exposé de physique. Alors là, bien sûr, les salles elles sont par discipline parce que chaque salle a besoin d'un matériel spécifique. Et dans la discipline dans la salle pour les exposés de physique, il y a un petit accélérateur de particules. On va pouvoir étudier, regarder en direct comment fonctionne un accélérateur et regarder produire des choses avec cet accélérateur. Et ça, c'est les médiateurs du Palais de la Découverte qui vont faire les exposés.
Donc c'est instructif et puis ça éclaire aussi sur les enjeux contemporains,
voilà,
de
sciences et sociétés. C'est comme toujours le Palais de la Découverte, c'est déjà l'émerveillement, la beauté de la science. Et cette beauté de la science, d'ailleurs, quand on sort de la salle de physique, on va avoir une cuve à vent d'un bassin. Ça, c'est totalement nouveau. Il y en a nulle part dans les musées de scientifiques au monde. C'est un bassin qui fait 3 mètres de diamètre, circulaire, 45 centimètres de profondeur. Et tout autour du bassin, il y a plein de petites palettes verticales. C'est immobile, il ne se passe rien. Et d'un coup, les palettes se mettent à s'animer. Des ondes commencent à partir du bord du bassin et puis commencent à se rencontrer quand elles arrivent vers le centre. L'eau commence à prendre des formes bizarres et d'un seul coup apparaît le dessin de la tour Eiffel. qui disparaît et réapparaît. Alors, on va continuer à avancer. Et puis là, on arrive à encore quelque chose de totalement nouveau dans le palais, c'est les labos. Ça n'existait pas. Il va y en avoir 5. Les visiteurs pourront avoir des séquences un petit peu plus longues, d'une heure à deux heures, dans lesquelles c'est eux-mêmes qui vont expérimenter. Eux-mêmes qui vont tester. Là, à côté de la cuve à honte, c'est le labo testé. Alors, tester, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire des bricolages mathématiques. Un bricolage mathématique, on peut faire ça avec des cordes, on peut faire des rubans de Mobius avec des surfaces en papier.
On mène des expériences guidées par un médiateur.
Exactement. Toujours le médiateur pour guider. Mais là, c'est vraiment par la pratique soi-même des choses qu'on va aborder. On n'est pas en train d'observer le médiateur qui fait. On est actif, on bricole et on est en position, on va se retrouver en position de chercheur. Test, créativité, et puis pourra se faire de lancer des défis, etc. Et puis là, l'idée, c'est vraiment d'oser, de bricoler. Hein. On teste pour voir ce qui se passe. Et en fait, en général, il se passe toujours des choses très intéressantes. Voilà. Alors ensuite, on peut monter pour aller au planétarium. Coupole de 15 mètres de diamètre. Et ensuite, avec quelque chose de couplé entre de la vidéoprojection et de l'optomécanique. En fait, il y a deux techniques de planétarium. Soit on fait des vidéoprojecteurs qui permettent d'avoir énormément d'étoiles, etc., des choses magnifiques, mais qui ne permettent pas d'avoir des étoiles très précises, très pointues, très fines, parce qu'il y a la résolution. Et puis, il y a les planétariums optomécaniques, comme les premiers, comme celui qu'il y avait, qui là permettent d'avoir des étoiles très précise, très fine, etc. Et ben là, on va avoir un planétarium unique au monde qui a les deux techniques. Pour l'instant, personne ne l'a jamais fait parce qu'il faut réussir à synchroniser très précisément ces deux dispositifs. Alors ensuite, on sort et puis on tombe sur des îlots qui sont là pour aborder les sujets de recherche actuelle, de recherche contemporaine, avec tous les ans deux îlots qui changent. Bon, actuellement, eh ben on a l'informatique quantique, enfin voilà. Les sujets actuels
à découvrir.
Et donc vous voyez que là, on va pas rentrer par les disciplines de manière universitaire, la physique, la machin, autour d'une thématique, il y a les différentes disciplines qui vont
un récit, une logique.
Voilà, une logique d'interaction entre elles. Et puis une fois sorti de la galerie, on arrive sur le balcon de la rotonde, magnifique, et on a quatre îlots qui s'appellent la fabrique des sciences. Ça, c'est encore une nouveauté totale, c'est la présence des sciences humaines et sociales au Palais de la Découverte, où l'objectif, c'est de montrer comment la science se produit, qui décide des orientations de la recherche, comment on fait face à l'incertitude en science.
Le côté méta.
Méta. Comment on établit un fait scientifique, comment on le vérifie, et puis comment apprend-on à faire de la recherche. Et puis, nouvelle chose encore inédite, c'est un observatoire numérique qui est installé sur le toit du Palais de la Découverte. Eh oui, sur le toit du Palais, il va y avoir une coupole. Dans ce coupole, il va y avoir deux télescopes robotisés qui permettront aux visiteurs dans les salles du Palais d'observer les images réelles en temps direct du soleil et du ciel.
Merci Céline Lozen. Nos reportages loin du studio et en immersion, c'est notre collection La Science au Labo. C'est à podcaster sur votre appli préférée, l'appli Radio France, bien sûr. Tania Louis, votre réaction à l'écoute de ce reportage?
Je pense que c'est un reportage qui représente bien l'enthousiasme de ce qu'est la médiation scientifique. Et c'est vraiment très démonstratif d'avoir donné la parole à Jean-Michel Courty, parce que ça rappelle que la médiation, c'est vraiment un domaine qui est à l'interface entre le public et les scientifiques, et que le projet du Palais, qui a été très clairement réfléchi et conçu avec les scientifiques, est quelque chose de très ambitieux et que ce serait vraiment regrettable que ça ne se fasse pas. Et dans le discours de Jean-Michel Courty, on retrouvait aussi cette idée d'émerveillement, d'émotion, qui pour moi est la preuve que la culture scientifique fait partie de la culture en général, puisque c'est aussi une source d'épanouissement intellectuel. Et bon, c'est un peu inquiétant de voir qu'on va peut-être vers des choix de société qui considèrent l'épanouissement intellectuel, la culture et la culture scientifique comme des variables d'ajustement budgétaire. Et en même temps, il insiste aussi beaucoup sur l'importance de la médiation humaine, des interventions des médiateurs et médiatrices. Et ça aussi, pour moi, c'est quelque chose de vraiment fondamental au Palais, mais pas que. Hein. Il y a énormément de structures qui, avec des moyens différents, font aussi de la médiation humaine. Et faut pas qu'on oublie que ça, c'est un savoir-faire. Et que ce savoir-faire risque de se perdre si ce genre de structures disparaissent. Et malheureusement, des projets enthousiasmants comme celui-là, on en voit de plus en plus qui sont conçus, qui commencent à se mettre en place et qui doivent être abandonnés faute de financement. Donc vraiment, le Palais de la Découverte, c'est un très beau et grand arbre. Et si on dézoome un petit peu, il est vraiment représentatif de toute la forêt de la culture scientifique qu'il y a autour de lui.
Par rapport à son avenir sur sa place au Palais d'Antin, dans une interview parue le 11 juin, Rachida Dati, dans le Figaro, disait « La question de la culture scientifique en France n'est pas une question de site, c'est une question de vision et de projet. On ne peut pas l'aborder uniquement par l'aspect bâtimentaire. » Romain Jamais, si le Palais de la Découverte n'ouvre pas au Palais d'Antin, il y aura quoi à la place ?
C'est une excellente question. Il faudrait demander aux personnes qui ont tout bloqué. Nous, on ne nous a rien dit. Nous,
c'est totalement
absurde. On a quand même présenter toutes les étapes de travail en CA, donc nos tutelles, c'est-à-dire le ministère de la Recherche et le ministère de la Culture, ont vu toute l'avancée du travail depuis 6 ans. À ma connaissance, le Grand Palais était au courant, puisque Didier Fusillier, sur cette antenne,
le
directeur du Grand Palais, pardon, oui, sur cette antenne fin mars, disait que le Palais de la Découverte, les équipes d'Univers Sciences y travaillaient et qu'il ouvrirait dans 8 galeries, etc. Donc, bon, là où c'est prévu, tout ça. Donc, je n'ai absolument aucune donnée et je ne sais pas si quelqu'un en a. J'ai rien vu de public et je guette un tout petit peu la presse en ce moment et les médias en ce moment. Et je suis pas tout seul, on est beaucoup. Et on n'a aucune idée. Donc, a priori, la chose qui semble évidente, c'est que le Grand Palais a contracté un emprunt énorme pour réaliser ses travaux. L'État a subventionné, mais il y a eu aussi un emprunt énorme à rembourser. Donc le Grand Palais, et le président du Grand Palais, Didier Fusillier, ne s'en cache pas, a besoin d'énormément, énormément d'argent dans les années à venir pour rembourser cet emprunt. Donc, je sais pas, je fais des hypothèses, mais j'ai l'impression que si quelqu'un veut récupérer cet espace qui est effectivement magnifique, et qui est au pied des Champs-Élysées, et qui est juste à côté de l'Élysée, ça serait peut-être pour faire de l'argent avec. Donc, si c'est pour faire de l'argent, c'est pour faire quoi ? Des privatisations ? C'est pour donc mettre en avant des grandes fondations privées ? Donc, ça veut dire que les millions, là, qu'on s'apprête à jeter à la poubelle, en fait, ça sera pour faire gagner des millions à... Bon, beaucoup, beaucoup de mal avec ce concept. Mais ce ne sont que des hypothèses, puisqu'on est au courant.
Si je peux ajouter quelque chose, le projet du Palais de la Découverte ne se distingue pas du pavillon d'Antin. Je veux dire, Jean Perrin n'a pas imaginé son Palais de la Découverte ailleurs. Il l'a imaginé à cet endroit précis, oser dire qu'on peut faire de la diffusion scientifique n'importe où, n'importe comment, c'est totalement, mais c'est une absurdité de plus de nos dirigeants actuels.
Tania Louis, vous souhaitiez réagir ?
Oui, moi, il y a une chose qui me heurte vraiment dans les propos qui ont été tenus par Madame la Ministre, il me semble, sur le fait que c'est pas une question de lieu. Mais en fait, c'est quand même une question de moyens. Et un lieu, c'est un moyen. Et on voit bien ces derniers mois, voire ces dernières années, que les moyens de la culture et les moyens des sciences, c'est-à-dire les deux domaines auxquels est rattachée la culture scientifique, sont, on va dire, sabrés de façon assez nette. Et en fait, supprimer un lieu, c'est supprimer des moyens. Et à un moment, dans la culture scientifique, comme dans tous les autres domaines, demander à des acteurs, actrices sur le terrain de maintenir des activités équivalentes avec des moyens qui diminuent, ça ne peut pas fonctionner.
Oui, je voulais dire, Tania Louis, que là, en plus, tout ce qui se passe en ce moment, ça s'inscrit dans un contexte général de réduction de financement pour la culture d'un côté et pour la science de l'autre, et que la culture scientifique prend donc des coupes budgétaires des deux côtés.
Oui, c'est exactement ça. Si on regarde là récemment, entre 2024 et 2025, il y a plus d'un milliard de coupes de budget qui ont été faites dans l'enseignement supérieur et la recherche, sachant que les universités sont des acteurs de la culture scientifique. Mais il y a aussi eu, par exemple, récemment, là en janvier, le gel de la part collective du Pass Culture. Il y a eu la suppression d'à peu près 2/3 des financements culturels de la région Pays de la Loire, de 100% du budget de la culture du département de l'Hérault. Il y a eu des cas très très médiatisés, par exemple dans le département du Rhône, début avril. Il y a 3 associations de protection de la nature qui ont perdu 80 000 euros de financement pour un courrier critique sur un projet du département, avec des propos du président du département du Rhône de type « j'en ai assez de ces associations de danseurs aux pieds nus ». Je ne suis pas prêt à ce que mes enfants mangent tous des graines et fassent de la bicyclette tous les jours. Donc ça, c'est des attaques frontales sur la culture scientifique, en l'occurrence sur un sujet qui est un sujet environnemental, mais c'est pas le seul. Et ça, ça a des conséquences. Et on parle beaucoup du palais, et c'est très bien, parce qu'il faut se mobiliser pour le palais. Mais c'est important d'avoir en tête qu'il ne faut pas se mobiliser que pour le palais. C'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Il y a énormément de structures qui sont en train de réduire leurs projets, d'arrêter des programmes qui existaient depuis des années. Il y a des emplois qui sont supprimés et il y a des structures qui sont à risque de disparition, là, en 2025 ou 2026, absolument partout sur le territoire français. Et c'est important de le dire et d'en avoir conscience et de se mobiliser de façon collective pour essayer de défendre le palais, mais aussi toutes les autres structures de culture scientifique qui sont menacées actuellement.
C'est ça, c'est que le palais, Tania Louis, c'est vraiment très symptomatique de ce qui est en train de se passer en ce moment, d'un très grand nombre de structures de culture scientifique qui sont en train de se battre pour leur survie.
Ah oui, c'est exactement ça. Et je peux m'empêcher de me demander, est-ce que si on s'était plus mobilisé pour les petites structures qui ont été touchées en amont, on aurait pu éviter d'en arriver à cette situation de menace sur le palais ? Je sais pas. Maintenant, j'espère qu'on va réussir à faire fonctionner ça dans l'autre sens et que cette situation de menace sur le palais va être un électrochoc qui va nous permettre de préserver un peu tout le monde.
Jean-Audouze, vous souhaitez réagir ?
Ben oui, enfin, d'élargir. Finalement, la culture aussi subit des. Je veux dire, tout le domaine culture, science, éducation, tous ces domaines sont. Enfin, je veux dire, que ça a été. Le budget de la France a été extrêmement mal géré ces dernières années et on va faire payer le prix, pas seulement au Palais de la Découverte, mais à l'ensemble, à l'éducation. Pour moi, l'éducation, culture, science, enfin je veux dire recherche, tout ça, ça va ensemble. Et donc, pourquoi on défend le palais ? Parce que le palais, c'est un des éléments de cette grande structure. C'est de la même. Donc, effectivement, il y a un gros effort de la part des pouvoirs publics pour remettre un peu, enfin, quand vous voyez par exemple que des ministres, la ministre de l'économie est incapable de dire le nombre de mètres carrés dans un hectare, c'est proprement scandaleux. Hein, et donc, et ce sont ces gens-là qui décident des budgets de la culture, de la recherche et de l'enseignement.
Romain Jamais, vous souhaitiez rebondir vous aussi.
Oui, non, bah, c'est pour dire essentiellement la même chose, mais je voudrais juste dire, parce que les gens n'ont pas la vidéo, que j'ai mis mon beau t-shirt avec le palais de la découverte.
Défendre la culture scientifique,
voilà,
en effet.
On a plusieurs slogans, et l'un de ceux qu'on a mis, c'est évidemment défendons la culture scientifique. On est bien conscient qu'on est emblématique, qu'on a la chance d'être un monument, d'être un musée qui est connu de beaucoup de gens, et encore une fois, hors Île-de-France. Je rappelle, un tiers de notre public approximativement hors Île-de-France, et on a vraiment du public qui vient de partout. Et donc, on est visible, et on est un emblème de la culture scientifique, de la science, de l'argent qui est en train de manger beaucoup de choses. Et il y a un mot qui n'a pas été prononcé encore, que je trouve très important, qui est du service public. Et vraiment, on est un emblème de tout ça. Et si on peut être, comme le panda, le truc visible qui fait qu'on protège beaucoup de choses derrière, c'est évidemment notre souhait. On n'a pas du tout envie de se limiter à la défense du palais de la découverte. On a bien conscience que c'est une lutte beaucoup plus large.
Et bien dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo, mais merci à vous trois de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On poste pour vous, si vous voulez en savoir plus, vous mobilisez vous aussi. On vient de vous publier la pétition en ligne sur Blue Sky, sur notre page France Culture. Merci à vous trois. Tout de suite, on retrouve Alexandra Delbo et sa chronique avec science, une chronique spéciale toute la semaine.
Cette semaine, on s'intéresse à l'expérimentation animale et comment s'en passer avec aujourd'hui, comment la souris est-elle devenue le modèle par excellence ? C'est l'animal le plus utilisé en laboratoire. Les souris représentent à elles seules 68% des animaux sélectionnés pour l'expérimentation animale, loin devant les lapins, les rats, les poules ou encore les poissons zèbres. Mais pourquoi la souris est-elle devenue le modèle animal privilégié ? C'est-à-dire, pour quelles raisons les scientifiques choisissent-ils davantage ces animaux que d'autres. Pour le comprendre, il faut revenir au début de l'expérimentation animale et au concept même de modèle animal. Jean-Gaël Barbara est directeur de recherche CNRS, historien des sciences au laboratoire Neurosciences Paris-Seine et chercheur associé au laboratoire Sphère.
Le concept de modèle animal, on peut dire, il n'est pas immédiat. Si vous voulez, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, les physiologistes, les anatomistes vont utiliser des animaux. Mais ils les utilisent un petit peu au bonheur de la chance. Ils vont choisir un animal plutôt qu'un autre, mais pour des raisons pratiques. C'est seulement, si vous voulez, au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, et puis beaucoup plus au 20e siècle, qu'on va avoir l'idée de choisir un animal en fonction d'une question scientifique posée. Et ça, ça va se développer tout au long du XXe siècle. Et par exemple, pour les neurosciences des années 50, par exemple, on a un retour aux modèles animaux invertébrés. Pour ce qui est maintenant des rongeurs, c'est quelque chose qui est apparu très progressivement. On peut dire qu'au début du XXe siècle, on commence à utiliser des rats et des souris, plutôt des rats parce que c'est un peu plus gros quand même, pour leur capacité à résoudre des problèmes, à faire des labyrinthes. Et donc, ces animaux vont devenir des modèles d'apprentissage.
La physiologie viendra plus tard, simplement parce qu'on ne dispose pas de techniques suffisantes. Plus un animal est petit, plus il faut raffiner les mesures et miniaturiser les outils. C'est pour cela qu'au départ, les scientifiques se sont tournés vers des animaux plus gros, chiens, lapins ou rats, plus simples à manipuler et donc à observer. Ce qui va marquer durablement une préférence pour la souris, finalement, c'est la génétique. La très grande majorité des gènes humains ont un équivalent chez la souris et surtout, on peut manipuler son génome et créer donc des modèles de pathologie humaine chez ces animaux.
On va étudier des gènes, des mutations chez des souris, comme on l'a fait chez la drosophile aussi dans les années 30. On peut faire un peu de physiologie chez la drosophile, mais c'est beaucoup plus compliqué. Le cerveau d'une drosophile, par exemple, est extrêmement petit. Donc, si vous voulez, entre la drosophile et le rat, on choisit la souris, puisqu'elle est assez grosse quand même pour faire de la physiologie, et on peut faire de la génétique et des sélections de mutants. Ensuite, c'est vrai que dans les années 90, on voit apparaître les souris knock-out et toute la biotechnologie. Et bien sûr, c'est ce vecteur de progrès qui va nous amener jusqu'à l'époque actuelle avec les outils, bien sûr, pour développer des animaux transgéniques qui sont très adaptés à certaines questions scientifiques, qui sont faits sur mesure pour certaines questions scientifiques.
À présent, la technologie des ciseaux moléculaires CRISPR-Cas9 offre la possibilité de muter encore plus efficacement et d'obtenir de nouveaux modèles murins en un temps record. Le maintien de ces lignées transgéniques représente d'ailleurs un usage massif des animaux de laboratoire. C'est l'une des premières sources d'utilisation, juste derrière la recherche fondamentale et devant le développement de médicaments, qui est pourtant l'usage le plus connu. Mais ce recours systématique à la souris a bien sûr ses limites. Nous ne sommes pas des souris, cela explique en partie pourquoi le passage des phases précliniques au stade clinique échoue régulièrement. On entend souvent dire que plus de 90% des médicaments testés avec succès chez les animaux ne seront jamais commercialisés. Les chiffres sont à prendre avec des pincettes parce qu'ils comptabilisent dans l'eau des tests in vitro, donc cellulaires, et pas seulement sur les animaux, mais cela reflète tout de même une certaine réalité. Il y a un autre biais dont on parle beaucoup moins souvent, l'usage privilégié des souris mâles. On a longtemps cru, à tort, que les cycles hormonaux des femelles rendaient les résultats plus variables et donc moins fiables, ce présupposé est aujourd'hui largement remis en question. Depuis une dizaine d'années, les financeurs et les revues scientifiques demandent à avoir la parité dans les cohortes pour éliminer ce biais des recherches.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lauzel, Lou Angers, Antoine Beauchamp, Alexandre Morales. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.